l'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est Marie-Claude aujourd'hui, toute seule. Guylaine m'a un petit peu abandonnée, mais on la retrouvera bientôt. Et je suis là pour vous représenter à nouveau une nouvelle émission sur l'Afrique dans tous ses états, puisque l'Afrique est un continent dont on parle beaucoup, mais que peut-être on ne connaît pas aussi bien que ça. Et en tout cas, la prétention de cette émission, c'est de vous la présenter un peu dans tous ses états, justement, dans toutes ses possibilités, ses capacités. Et ses envoûtements, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, je reçois M. Irénée Dombouet, donc, qui est bien connu sur la place de Montpellier, qui a quand même une certaine ancienneté, il nous dira peut-être un petit peu depuis combien de temps il est là. Alors, pour ne citer que quelques indications sur lui, je vous dirais qu'il est professeur d'économie à l'université Montpellier Paul Valéry, puis dans d'autres réseaux aussi. C'est un grand militant associatif sur de nombreux points. Et il a ajouté à sa carte de visite le métier de, enfin la profession ou la vocation de conteur. Il régale les petits et les grands dans de nombreuses manifestations. Vraiment, c'est un être assez complet, j'allais dire complexe et complet, et qui apporte sa pierre au mieux-être et à la fraternité entre nous tous. Monsieur Dombouet, bonjour.
Bonjour Marie-Claude. Dis donc, je vais rougir si je pouvais rougir. Hein. Bon, c'est gentil de
voilà,
ça.
Je pense que c'est un peu la perception. Je n'ai pas exagéré. Alors, bon, moi j'ai souhaité qu'on se voit parce que derrière Irénée Dombouet, il y a une longue histoire. Que ce soit, je ne veux pas dire que vous êtes très très vieux, mais il y a une longue histoire. Et notamment, on va l'apprendre peut-être au début, c'est-à-dire dans votre pays d'origine, qui est le Burkina Faso. Et peut-être que vous allez nous en dire quelque chose qui va nous intéresser, nous passionner.
Alors, d'abord, je voulais te remercier de m'inviter pour cette association, l'Afrique dans tous ses états, parce que, figure-toi que tu as parlé de mon militantisme associatif, et je veux dire que ça a démarré par le fait que j'ai découvert, en arrivant en France, il y a un certain nombre d'années, que mon pays était, mon continent était très peu connu. La première personne que j'ai rencontrée à Paris en arrivant, quand je lui ai dit « je viens de la Haute-Volta », il m'a répondu en disant « ah, je connais, c'est une ville des Antilles ». Et cela m'a beaucoup choqué. Après, je me suis rendu compte que finalement, les gens ne connaissaient pas par manque de volonté, mais parce qu'ils n'avaient pas l'information. Et je me suis dit que c'est un devoir pour nous de faire connaître ce pays et ce continent, comme tu dis si bien que si mal connu. Et j'espère que votre émission va avoir longue vie et va permettre aux auditeurs, aux uns aux autres, de se faire une idée plus précise et plus nette sur ce continent qui m'est cher.
Voilà, alors je confirme qu'effectivement c'est un continent pas très bien connu et que souvent les gens, alors par contre quelquefois il y a des surprises, on me dit, quand je dis le Burkina Faso, ah oui c'était la Haute-Volta, mais à l'inverse, souvent ce sont des clichés, hein, des représentations qu'ont les gens, vraiment sur des choses assez d'ailleurs amusantes parce que voilà il y a des lions dans les villes, enfin bon tout ça dans les villes oui, il y a des immeubles aussi, il y a des maisons, il y a des administrations, enfin voilà, il y a des écoles, des lycées. Et justement, puisqu'on parle de tout ça, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ton enfance depuis l'origine, depuis le village qu'on peut nommer peut-être le village d'origine.
Oui, ce village Sara, qui est un village sur l'axe Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, à l'ouest donc de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique. Et village d'environ 4500 habitants, donc je suis né il y a un peu plus de 60 ans. Et rapidement, je suis à l'âge de 6 ans et demi, j'ai dû aller à l'école, mais à 20 km du village. Il n'y avait pas d'école. Donc on m'a confié à des tuteurs à 20 km où j'allais faire mon école primaire. Quand je pense qu'aujourd'hui maintenant, il y a un collège, ça me fait drôle. Quoi. Voilà. Donc, il y a du chemin qui a été parcouru.
Et c'est ce qui est frappant, parce que bon, je fréquente le Burkina depuis plus de 20 ans, hein, et j'ai des amis, et notamment des amis médecins, enseignants, etc. Et je constate souvent que quand un enfant apparaît vif, éveillé, est plutôt doué pour les études, il y a toujours eu un souci de la communauté, de la famille, de scolariser cet enfant. Et souvent, c'est vrai que l'enfant est obligé de faire vraiment un long chemin, et souvent à pied, pour pouvoir se rendre sur son lieu pour étudier. Et je dois dire que ce qui m'a toujours frappé dans ce pays, entre autres, c'est le bonheur qu'ont les enfants quand ils peuvent être scolarisés. Et même dans la ville de Bobo, qui est quand même une ville qui nous est chère à tous les deux, et où il y a le grand lycée où tu as étudié, il y a des enfants quand même, ce sont des villes très étalées, hein, puisque ce sont des villes qui s'étalent à l'horizontale et pas du tout à la verticale. Et les enfants, il y a des enfants qui font un long chemin tous les jours, avec plus ou moins le ventre vide ou pas, ou à peine, et pour aller à l'école, et que pour eux, c'est vraiment une richesse. Et il n'y a qu'à voir les mois qui précèdent les examens, que ce soit le BEPC, le CEP, le certificat d'études primaires, ou le bac, etc., de voir les enfants dans les rues, sous les lampadaires, parce qu'à la maison, il n'y a souvent pas d'électricité, voilà. Et puis, des classes leur restent ouvertes, souvent la nuit, éclairées, pour leur permettre de réviser, d'étudier. Donc, voilà, on part d'un petit garçon qui naît dans un village, un village important quand même, 4500 habitants déjà, mais où à l'époque, il y a 60 ans, il n'y avait pas d'école.
Il n'y avait pas 4500 habitants non
voilà,
plus.
Voilà, il y en avait moins, mais quand même, il n'y avait pas d'école. Ouais. Et qui, peu à peu, voilà, se retrouve. Alors, le chemin, c'était quoi après l'école primaire?
Alors, après l'école primaire, donc, j'ai fait 6 ans, donc, l'école primaire à Bereba, donc, qui est aussi le pays de ma maman. Et ensuite, j'ai dû aller au lycée à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, donc dans un grand lycée, comme tu l'as dit, le lycée Ouezin Koulibaly, qui porte le nom d'un des chefs de l'indépendance, des premiers administrateurs, des premiers politiques d'après l'indépendance. Ouezin Koulibaly, qui était premier ministre à la veille des indépendances, qui est mort accidentellement en 1958, qui a facilité l'accès de Maurice Yamego, qui était son adjoint, au poste suprême de président, premier président de la Haute-Volta en août 1960.
Alors, on est en train déjà de faire un petit peu une leçon d'histoire.
Oui, tout à fait. Alors,
avec les dates précises,
voilà.
Merci.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que tu parlais de, effectivement, cette difficulté pour les enfants qui vont à l'école. Il y a la question, donc évidemment, quand j'allais à l'école primaire, il y avait moins d'écoles dans le Burkina. Moins de villages avaient des écoles primaires, donc les enfants qui n'étaient pas chez les parents, c'était assez difficile, les conditions d'hébergement et tout ça. Tu as parlé du trajet, mais ce qui fait qu'il fallait quelquefois de la ténacité pour tenir. En tout cas, les conditions de vie favorisaient l'école buissonnière. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a beaucoup plus de villages qui ont leur école, on rapproche l'école des populations et ça facilite la scolarisation, et aujourd'hui le Burkina a beaucoup progressé en taux de scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école. Donc c'est un progrès qui a été favorisé aussi par ces 4 ans de pouvoir de Thomas Sankara, qui a fait beaucoup monter le taux de scolarisation en 4 ans de pouvoir.
Oui, et ça avait
on laissé, y est déjà.
Et ça avait laissé des traces, sauf que voilà. Bon, par la suite, ça s'est beaucoup détérioré. Donc, c'est vrai que moi, je suis toujours admirative parce que beaucoup de mes amis, qui sont aussi quelquefois, souvent les tiens aussi, ont étudié dans ces années-là où c'était très difficile. Et quand même, je veux dire que tous, vous avez développé une ténacité, une endurance, enfin, des qualités humaines et vraiment qui vous ont donné, dans vos professions respectives, je pense, une grande force. C'est peut-être justement la force de représenter des modèles ou de sensibiliser beaucoup les enfants. Peut-être que votre empreinte, en tout cas, elle a fonctionné. Et c'est vrai que c'est un pays on a abordé. Mais on va continuer. Je n'ai pas envie qu'on parle d'histoire tout de suite. On va continuer sur l'histoire d'Irénée Dombré un petit peu. Donc, après le lycée, il s'est passé quoi?
Alors, le lycée, donc lycée Ouezin, je fais la 6e à la terminale dans cette deuxième ville du Burkina, et j'ai eu le bac donc là-bas, en 1974 précisément, et je suis venu pour faire des études d'économie en France. J'ai découvert la Normandie. Ah. Alors, ça faisait un drôle de changement de passer d'un pays du Sahel à la Normandie.
Et
je me rappelle que nous disions il pleut 48 fois par jour.
Voilà. La Normandie toute verte, parce que même tout, pour nous les gens du sud, ouais. du sud de la France ou du sud tout court, c'est vrai que c'est quand même un autre monde, entre autres la Normandie, oui, avec cette verdure et cette humidité. Voilà. Et donc, oui.
Je veux quand même être un peu prétentieux, mais c'est la vérité. J'ai quand même été le premier bachelier de mon village, ce qui me confère une certaine responsabilité.
C'est pas prétentieux, c'est très important. Il faut des porte-flambeaux quand même, franchement. Et pour les enfants, c'est quand même autre chose hein, que de savoir, tiens, voilà, là, il est là, et puis il vient nous voir, et puis on compte encore, et il existe. C'est du concret, quoi. Hein. Premier bachelier, voilà, il a fait son chemin, il est à la France, comme ils disent, et puis en même temps, il vient nous voir, il reste fidèle à son pays, à sa culture, donc c'est important.
Hein. Merci.
Et alors ensuite, après l'université en Normandie, alors, avec les vaches normandes.
J'ai fait mes deux premiers cycles. Et là, évidemment, j'ai commencé la vie associative militante. Il y avait une association de Burkinabé, où on appelait les Voltaïques à l'époque, qui était très militante, très engagée. Il y avait une association d'Africains, la Fédération des Nations d'Afrique noire en France, la FEANF, qui était aussi très engagée, qui avait un combat anti-impérialiste dans lequel je me suis inscrit. Et ça nous prenait pas mal de temps aussi, à côté de la formation universitaire. Après mes deux premiers cycles, je suis venu à Montpellier pour faire mon troisième cycle. Et finalement, je suis passé de l'autre côté, je suis devenu enseignant. Et je suis toujours là.
Et toujours à Montpellier. Merci.
À Montpellier.
Merci d'avoir choisi la ville. Je dois dire que pour un Africain, et puis avoir des témoignages d'amis, c'est quand même plus facile à vivre la vie dans le sud ici que dans des pays plus au nord. Et j'y souscrirai parce que bon, je suis quand même plutôt quelqu'un du sud et j'avoue que je préfère être ici que là-haut. Voilà. Donc, depuis...
Mais quand même, là-haut, il y a du bon fromage aussi.
Ah oui. Non, il y a du bon fromage, il y a des gens super, tout est bien. Mais il faut beaucoup un parapluie, il ne faut jamais l'oublier, surtout son parapluie. Et voilà. Et donc, ici, l'enseignement... alors, il y a effectivement un militantisme associatif, mais je pense que ce militantisme, le métier d'enseignant, ton métier d'enseignant est mis aussi au service, non, un petit peu de ce militantisme. Je crois savoir que tu enseignes dans des organismes plus ou moins à vocation plus ou moins sociale, ou non, de relais social.
Oui, ça dit que, par exemple, donc, je suis prof à l'Institut régional de travail social, où je mets plutôt en avant l'économie sociale et solidaire. Et j'essaie surtout, si j'ai bien compris ta question, en tout cas ce que je fais, j'essaie souvent de joindre un peu mes deux pôles, c'est-à-dire cette vie associative et cette vie professionnelle. Et, par exemple, chaque année, j'amène mes étudiants de l'IETS à faire une découverte de la maison des tiers-monde de la solidarité, à passer du temps à artisans du monde, à comprendre un certain nombre de réalités qui ne connaissent pas dans le cycle universitaire classique. Et même, j'oublie aussi de dire que j'ai fait des activités avec mes étudiants à la maison des chômeurs des citoyens solidaires.
Voilà,
donc,
c'est ça aussi.
Tout ça pour essayer de joindre... Faire en sorte déjà qu'ils découvrent. Et ils sont, j'en ai une trentaine de l'IETS, et peut-être deux, trois vont adhérer à ces structures-là. Et même ceux qui n'adhèrent pas, ils ont vu, ils savent que ça existe. Et pour moi, c'est important. Et je trouve que ça me donne beaucoup plus de sens dans le fait d'enseigner que de la théorie, quoi.
Tout à fait. Je pense que justement pour les jeunes, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces structures-là, justement, et je pense que pour des jeunes qui vont se consacrer plutôt à du travail dans le social ou dans le médico-social, c'est important d'avoir connaissance, d'avoir une idée. Et effectivement, même s'ils n'adhèrent pas ou ne militent pas, en tout cas, ils savent.
Tout à fait.
Et ils peuvent très bien orienter, et c'est important de savoir qu'est-ce qui nous entoure, quoi, de ne pas rester dans son...
À l'université, il y a aussi un département qui s'appelle le département de développement social. Donc, du coup, ce sont des gens qui choisissent cette branche-là parce qu'ils ont aussi déjà une sensibilité. Et à nous, enseignants, d'essayer de faire en sorte que cette sensibilité soit nourrie par nos expériences, par nos engagements à nous par ailleurs. Et de leur sortie de ne pas faire seulement que des grands théoriciens et faire en sorte qu'ils puissent voir ceux qui mouillent leur chemise en voulant faire en sorte que notre monde ait un autre visage, un visage plus humain.
Alors, je vais vous poser une question, pas facile peut-être, mais en quoi, enfin moi j'ai mes petites idées, mais justement c'est des idées qui sont les miennes, en quoi justement le fait d'être africain, d'avoir eu ce parcours pas si facile pour arriver quand même à avoir une formation à la hauteur des compétences, etc. En quoi cette origine africaine, elle peut justement être un relais, un soutien à un enseignement d'économie parce que forcément il y a des influences, on parlait déjà des engagements politiques. Qu'est-ce que, enfin, à ton avis, à toi, qu'est-ce que ça peut représenter pour le voilà pour les étudiants, les gens qui viennent avoir un enseignement, qui viennent essayer de comprendre, qui viennent recevoir du savoir, etc.
Oui. Alors, la première chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que il faut savoir que dans nos cours, dans nos classes, que ce soit à l'ITS ou à la fac, nous avons aussi des étudiants d'origine africaine, Afrique du Nord en plus grand nombre, mais Afrique du Nord aussi. Et je pense que ceux-là qui arrivent et qui découvrent qu'ils ont un enseignant originaire de chez eux, eh bien, c'est pas rien. Ça leur a créé un climat de qui les rassure, de confiance. Et déjà, ça, c'est pas rien. Je sais que pour en avoir parlé à certains d'entre eux, que ça les aide, quoi. Alors, évidemment, c'est vrai que je me dis, en quoi est-ce que c'est cette origine, quel est le lien? Bien sûr que forcément, je suis amené à aborder des questions qui sont peut-être moins abordées. Je suis penché sur l'économie internationale, je suis penché sur l'économie du développement. Et donc, tout ce qui qui représente l'ailleurs, cet ailleurs d'ailleurs qu'il est de moins en moins à cause de tout ce que le monde sait de la mondialisation, j'essaie de les familiariser avec cela, et c'est d'autant plus facile pour moi que c'est des choses auxquelles je suis confronté tous les jours qui me tiennent à cœur. Donc, je n'ai pas besoin de travailler, d'aller bouquiner pour pouvoir leur apporter ce plus qu'ils n'ont pas avec d'autres enseignants, sans prétention, mais parce que c'est qui est dans mes gènes.
C'est le sens de ma question. Et je pense qu'effectivement, pour quelqu'un qui reçoit un enseignement, à un moment, de voir une personne qui vient d'une autre expérience, d'une autre culture, et puis je pense peut-être particulièrement maintenant avec la question aussi de la migration, ça peut justement éveiller et à donner envie de poser d'autres questions et d'aller plus loin. C'était le sens vraiment de ma question. C'est bien d'avoir compris. Parce que peut-être c'était un peu personnel aussi. Donc, voilà. Et donc, on arrive un petit peu maintenant avec tout ce côté professionnel qui est aussi un côté engagé. On arrive à la question justement aussi des engagements plus précisément. J'aimerais peut-être qu'on puisse réévoquer rapidement, ça a été évoqué au début un petit peu avec les Ouazzin Coulibaly et compagnie, rapidement l'histoire pratiquement jusqu'à nos jours, mais d'une façon très, très, très laminaire, quoi, très synthétique.
En fait, avant de répondre à cette question, je voulais finir sur ce qu'on vient de dire sur le lien entre enseignement et vie sociale, etc. C'est que il m'arrive d'avoir des anciens étudiants qui, dans leur fonction, rencontrent des cas ou des compatriotes et qui disent « Tiens, notre prof, il pourrait peut-être vous aider. » Et j'ai des gens que j'aurais pu aider, que tu connais d'ailleurs, parce que leur animateur, leur éducateur savait que j'avais été leur enseignant, mais que par ailleurs, j'avais une vie militante et j'avais des réseaux qui pouvaient être utiles à la personne qu'ils avaient en face d'elle.
Voilà, et ça, c'est vrai que c'est important, et que même moi, qui ne suis pas du tout africaine, mais qui ai quand même une petite connaissance du pays, ça m'arrive d'être consultée. Alors, je me doute que quelqu'un qui est enseignant et qui est vraiment du sérail, ça doit être encore beaucoup plus opportun pour tout le monde. Alors, j'avais posé une question sur l'histoire, mais là, le temps court, donc je crois qu'on va la garder pour la prochaine, parce qu'on va se revoir, on va pas rester là-dessus. Et donc, surtout ce qui concerne après le déroulement, historique du pays. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et alors là, nous allons avoir une pause musicale qui est... Alors, Irénée ?
C'est Bidambié. C'est un jeune musicien que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, qui est du Burkina, qui est de ma région. Et en fait, la chanson qui me plaît dans son répertoire, dans ce disque-là, c'est... Il dit « Les jeunes s'ils veulent, ils peuvent. Et je trouvais que c'était un encouragement à la jeunesse qui, quelquefois, a des doutes. Et dans la chanson, ici, il prend des exemples de la région, ici, des noms, parce que ces gens ont eu un parcours intéressant pour montrer aux jeunes qu'on peut toujours, chacun à sa manière, porter une pierre à la vie de son village, de sa région et de son pays.
Un beau message.
Il faut dire que c'est un musicien, mais il est fonctionnaire de la douane.
Ah, en même temps. Alors, c'est un beau message et je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Alors.
À très bientôt.
Manini.